100.2, le Mac d'Arverne.
Et nous accueillons José pour la chronique plus bête, la vie, numéro 25. Bonjour José.
Oui, déjà, bonjour Marie.
Déjà, la dernière fois on avait parlé des chats.
Ouais,
et je crois qu'aujourd'hui ce sera encore chat, chat, chat.
Oui, on va y revenir un peu. Pas seulement, mais on va y revenir, ouais, parce qu'il y a des petites choses à ajouter au propos de la semaine. Enfin, il y a 15 jours d'ailleurs.
C'était oui, c'est vrai. Il y a le court-métrage qui nous a séparés là.
Et oui.
Oui.
Bon oui, effectivement, il y a 2 semaines, on avait évoqué cette situation qui est épouvantable des chats en France. On avait donné les chiffres suivants, plus de 12 millions dans les foyers français. Mmh. Pour ceci, ça ne se passe pas trop mal dans la plupart des cas.
Oui.
Et plus de 10 millions, oui, c'est-à-dire presque autant, et c'est une estimation qui s'appuie sur des bases fiables, hein, 10 millions qui sont livrés eux-mêmes, qui n'ont pas de foyer, pas d'abri, qui vivent au jour le jour, dans la peur, le froid et la faim, en secteur rural comme en secteur urbain, et qui se reproduisent de façon exponentielle. Mmh. Ceux-ci ont une espérance de vie très courte du fait de toutes les menaces qui pèsent sur eux.
Mmh. Donc on va continuer sur le même sujet, et un peu différemment quand même.
Oui, parce que je voudrais apporter quelques précisions, et puis après on passera à autre chose. Alors, donc, on a évoqué tous les dangers qui guettent ces animaux. On en a eu une illustration aujourd'hui. Des bénévoles qui nourrissent des chats libres dans le quartier des Vernes à Clermont-Ferrand ont trouvé l'un d'eux, il y a quelques jours, dans un état préoccupant. Il était pris de convulsions. Ce chat était très craintif, à tel point qu'elle n'avait jamais pu l'approcher auparavant. Et ce jour-là, elle s'est laissée attraper, ce qui en dit long sur son état. La fourrière a été appelée, le chat a été conduit chez un vétérinaire qui a attesté du fait qu'il avait ingéré du produit utilisé pour tuer les rongeurs du type rat et souris.
Ah mince!
Et celui-ci avait été préalablement mélangé avec un aliment pour chat. Alors bon, ça ne fait aucun doute sur la volonté manifeste d'empoisonnement. Hein. Le chat s'est remis de cette tentative, mais il a subi le test auquel tous les chats qui entrent en fourrière sont soumis et qui est censé détecter 2 maladies félines dont on va reparler. Ce test s'est révélé positif à l'une de ces 2 maladies, sans doute la fièvre. Bon. Le chat a été euthanasié. Bon, on peut dire que c'était pas son jour, parce que échapper en empoisonnement pour succomber aux ailes sanitaires de nos institutions.
Se faire piquer par un vétérinaire, c'est.
Bon. Ouais, voilà. Bon, il fallait que bon, voilà. bon, il a pas eu de chance. On voudrait tout de même passer un message personnel à l'empoisonneur. Ce chat-là au moins ne lui causera plus de soucis, et on va ajouter qu'une plainte pourrait bien être déposée. En effet, même si le susdit n'a pas signé son geste, bien évidemment, il faut qu'il sache que le geste en question est illégal et tombe sous le coup de l'article 521.1 ou encore 653.1 ou encore 654.1 ou encore 655.1 du code pénal. Ces articles sont relatifs aux actes de maltraitance, aux sévices, aux actes de cruauté et à la mort infligée sans nécessité à un animal. Mmh. Voilà.
Et tu as parlé de tests pour les maladies félines,
oui,
là. De quoi
oui,
il s'agit?
Alors, oui, tu as raison de soulever ce problème, car il y a beaucoup de confusion et d'informations erronées autour de ce sujet. Le test pratiqué dans les refuges et les fourrières est censé faire apparaître la présence soit du virus de la leucose féline, soit celui de la FIV. C'est l'acronyme d'un terme anglais qui signifie virus de l'immunodéficience féline. Ce second virus est proche du virus du sida. C'est pourquoi, par une sorte de raccourci bien commode, on a tendance à évoquer à son sujet un présumé, j'ouvre les guillemets, sida du chat, qui devient très vite sida tout court, alors que cette maladie est absolument spécifique au félin et en aucun cas n'est transmissible à l'homme. Le terme sida et même sida du chat est donc totalement impropre. Seul l'acronyme FIV, dans ce cas-là, a lieu d'être utilisé. FIV. FIV. Mmh.
Tu nous en dis un peu plus encore sur ces 2 maladies?
Oui, alors ces 2 maladies ont en commun d'être causées par un virus qui est différent chaque fois bien sûr, qui peut rester plusieurs années dans un organisme avant de se développer, comme d'ailleurs le sida chez les humains ou d'autres maladies, voire ne pas se développer du tout. Des 2 maladies, la leucose est la plus dangereuse et la plus foudroyante. Elle est aussi, fort heureusement, la plus rare. Mais pour la leucose, il existe un vaccin qui est efficace à quasiment 100%. Encore faut-il que les chats soient vaccinés. Or, dans la rue, la vaccination, tu t'en doutes, n'est pas d'usage. Quant à la FIV, elle est due à un rétrovirus qui peut rester inactif très longtemps, voire pendant toute la vie du chat. Et même disparaître spontanément, cela a été plusieurs fois attesté. Certains chats vivent très longtemps, même lorsque la maladie s'est déclarée, à condition bien entendu d'être traités pour les maladies opportunistes qui peuvent survenir, et d'être bien soignés, bien logés, bien nourris. Il existe bien d'autres maladies virales animal ou pas, qui peuvent être fatales à la jonc féline, mais il n'existe pas de test pour les déceler. Les deux dont nous avons parlé plus haut se transmettent par le sang, la salive ou le sperme. Donc des chatons, par exemple, qui sont issus d'une chatte qui est positive à l'un de ces deux tests, ont des chances d'être positifs aussi. Il est évident que des chats stérilisés n'auront quasiment aucun risque de se transmettre les virus concernés. Ceci est une raison supplémentaire, en plus de l'exponentialité de la reproduction, pour stériliser systématiquement les petits félins dès qu'ils atteignent l'âge des premières chaleurs, c'est-à-dire environ 6 mois maximum. Mmh.
La stérilisation, ça c'est une thématique sur laquelle tu reviens fréquemment.
Ah ouais, c'est un cheval de bataille qui m'est cher, vraiment. Mmh. Actuellement, pour ce qui concerne au moins les chats, elle est essentielle. Je m'étonne que quasiment aucune politique, ni au niveau des communes et des territoires, ni même sur le plan national, ne prenne ceci en compte. Alors je sais ce que tu vas me dire aujourd'hui.
Non, je ne dis rien.
Bon, d'accord. Ok. J'insiste là-dessus, Marie. D'abord parce que la surpopulation des chats génère énormément de souffrance et de détresse, et aussi parce que sur le plan environnemental, ceci peut entraîner des désordres ou des nuisances. Il ne faut pas en arriver au stade où, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on a mis en place une politique d'extermination radicale des chats pour en éliminer le plus possible, car ils se sont reproduits en si grand nombre qu'ils font peser une menace sur d'autres espèces indigènes. Mais rappelons tout de même que les chats ont été introduits par l'homme sur ces îles, où ils n'existaient pas auparavant. Mmh. Nous en sommes au point où nous pouvons éviter ce genre de situation. Alors, évitons-la. Mmh. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un article qui est passé dans La Montagne, très intéressant d'ailleurs, sur la nécessité, sur une campagne de stérilisation de la PA 63 des chats. Il est dit dedans que la commune de Clermont s'engage sur la stérilisation et procède à environ 50 stérilisations par an. Moi, je dis, c'est très bien. C'est parfait, sauf que c'est pas 50 stérilisations qu'il faudrait faire, c'est 5000 ou 50 000, voilà. Donc 50, c'est bien, tant mieux pour les 50 qui sont stérilisés, c'est un effet d'annonce, mais ça ne sert strictement à rien, voilà. Bon, je le rappelle quand même, la stérilisation massive est le seul moyen de régler le problème de la surpopulation des chats avec tout ce que ça entraîne. Mmh.
Tu voulais évoquer un autre thème ?
Oui, un autre thème qui n'a pas grand-chose à voir. Encore que je montrerai dans quelques temps que ça a à voir tout de même, je voudrais profiter de cette chronique pour parler des élections. Nous y reviendrons assez régulièrement, bien sûr. Il existe un collectif d'associations contre la chasse et le piégeage qui se nomme le collectif du 21 septembre. Cela fait référence à une grosse manif qui avait eu lieu à Paris et dans d'autres villes de France, et qui a eu lieu le 21 septembre 2013, et sur le thème « La chasse, il y en a marre ». Bon, voilà. Alors, donc, ce jeune, à tout hasard, l'adresse internet du collectif, c'est www.collectifdu21septembre.org, tout attaché, bien sûr. La griffe dont le siège est à Clermont en fait d'ailleurs partie. Ce collectif a contacté les candidats à l'élection présidentielle pour leur soumettre un questionnaire qui a pour objet leur attitude et leur projet quant à la chose cynégétique. Pour l'instant, un seul a répondu, il s'agit de Yannick Jadot, qui est le candidat d'Europe Écologie Les Verts, comme tu le sais. Et ses réponses sont sans ambiguïté. Il ne risque guère de se faire beaucoup plus d'ennemis parmi les chasseurs qu'il n'en a déjà, les relations entre chasseurs et écologistes sont, et c'est un euphémisme, relativement tendues. Yannick Jadot, à propos du sort que nous réservons aux animaux en général, parle d'enjeux éthiques. Il pense qu'il faut, je cite, « remettre en débat la légitimité et même l'acceptabilité de tuer un animal pour le plaisir ». Je ferme les guillemets. Et il annonce que la chasse doit devenir une pratique exceptionnelle. L'interdiction de la chasse à cour, de la vénerie sous terre, des chasses dites traditionnelles telles qu'elles sont pratiquées par exemple dans le sud-ouest, les pièges tuants et mutilants, entre autres, tout cela pour le candidat d'Europe Écologie Les Verts peut et doit être supprimé dès la première année de mandat. C'est clair. Pour connaître la position des hommes politiques sur la question animale, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site Politique et Animaux, www.politique-animaux.fr, et même de s'inscrire à leur lettre d'info, c'est extrêmement instructif. D'accord. C'est l'équipe de L214 qui a mis ça en place, il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui, Marie. Alors j'ai une petite brève si ça t'intéresse.
Oui. Alors voilà, il y a. Votre qu'à faire.
Bon, il y a une enquête publique qui a été lancée jusqu'au 1er mars. Il y a un projet d'arrêté sur les delphinariums. Alors, les delphinariums, en France, ils existent, on le sait, ils reçoivent des orques et des dauphins. C'est les seuls mammifères marins qui sont admis à être accueillis dans ces delphinariums. Oui. Sauf que, au lieu, bon, on voudrait bien quand même, parce que les animaux souffrent beaucoup dans ce genre d'endroit, c'est terrible, on voudrait bien quand même, il y a beaucoup d'associations qui voudraient que cela cesse progressivement, que ça s'arrête, qu'on ne remplace pas les animaux. Or, au lieu de ça, l'arrêté qui est prévu vise un développement de ces delphinariums. Alors, en mettant des situations d'hébergement plus acceptables pour les animaux, peut-être plus confortables, mais qui vise à faire de la France une nation finalement d'élevage pour les dauphins ou pour les orques, quoi. Donc, ce qui est quasiment inacceptable pour pas mal d'associations. Donc voilà, il y a une enquête publique qui est lancée sur Internet. Donc, je vous invite, pour ceux qui se sentent concernés par ce problème, à y aller et à répondre. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet-là sur le site de l'association One Voice. One Voice. Voilà.
Eh bien, merci. Merci José.
Merci
pour
Marie,
cette chronique
à toi.
Sur les chats. On passera à une autre thématique la prochaine fois. Est-ce que tu sais déjà? Pas
non.
Sûr. On verra.
Non, parce que je me suis un peu à l'actualité, si tu veux. Bon, ouais. je, des fois, je prévois, puis des fois, bon, j'attends.
Ça change.
En cours de route. J'attends
ouais.
que quelque chose se passe.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup José pour la chronique plus bête, la vie, chaque jeudi soir.